Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la qualité web avec nos invités. Delphine Malassaigne, responsable qualité chez Equino, et Elie Slohim, fondateur et président de la société UpQuest. Et bien entendu, elles vont se présenter plus en détail. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Ça va bien ?
Bien.
Bien, ok, super. Bonjour Elie.
Bonjour.
Bon, ben, c'est un grand plaisir parce que ça fait longtemps qu'on se connaît de façon, on va dire, à distance, Elie. Et c'est peut-être l'une des premières fois qu'on se voit. Donc on va parler de qualité web. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, bah, il suffit que les gens pense au pire site web que vous avez visité récemment, pas d'un point de vue mocheté évidemment, parce que c'est une notion subjective, mais plutôt au point de vue d'utilisation, de recherche d'informations, etc. Donc on va parler de tout ça avec nos invités. On va commencer par une présentation personnelle de chacun et chacune. On va commencer par Elie Slohim.
Et bonjour, donc je suis président de la société UpQuest et fondateur de cette société. Voilà, je viens de l'assurance qualité dans le domaine de la chimie. J'ai travaillé dans le pétrole, désolé. Et puis ensuite dans le domaine du vin. Et puis à un moment, je me suis tourné vers le web. Et depuis donc une vingtaine d'années, je suis consultant, conférencier, auteur, formateur et préfacier. Voilà, je fais plein de trucs et puis j'essaye de gérer ma boîte.
Très bien. Ouais. Delphine Malassaigne ?
Oui, moi j'ai commencé le web il y a une vingtaine d'années maintenant, on va dire. Donc j'étais d'abord ce qu'on appelait, enfin on va dire designer pour faire vite. Je suis rentrée ensuite dans l'intégration. C'est à peu près à cette époque que j'ai rencontré Elie et qu'il a commencé à me parler qualité web. Mmh. Effectivement, je me suis intéressée à ce métier. Et du coup, je l'ai exercé pour l'instant dans deux boîtes de façon très différente. Je m'intéresse particulièrement au sein de mon travail à l'accessibilité numérique, qui est une part qui me tient à cœur. Et puis voilà, c'est à peu près tout.
On parlera justement de l'accessibilité numérique tout à l'heure, parce que quand on s'est rencontrés l'an dernier, j'avais un peu réduit la qualité web à cet aspect-là et tu m'avais repris. Mais j'en profite pour signaler que j'ai oublié de dire que vous pouvez évidemment participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, hein, sur le site causecommune.fm, bouton chat salon libre à vous, ou sur le site libreavous.org. Et je salue les personnes qui nous suivent actuellement, dont notamment Marie-Odile, qui commente en disant « beau curriculum ». Donc elle semble ravie de vos curriculums. Alors on va parler de qualité web. On va commencer tout simplement par le début, on va dire, parce que c'est quoi la qualité web? Est-ce qu'il y a une définition précise? Est-ce qu'il y a une vision? Donc j'ai envie de simplement vous demander comment vous, en soirée ou autre, ou à la radio, comment vous présenteriez la qualité web? Qui veut commencer? Alors c'est Elie qui va commencer. Elie Slohim.
Oui, alors la qualité, ça va être de manière très simple, la qualité des sites, hein, tel qu'on l'aperçoit comme utilisateur, c'est effectivement quelque chose de très subjectif. C'est la capacité d'un site à répondre à des exigences, qu'elles soient implicites ou explicites. C'est quelque chose qui dépend énormément de l'observateur, mais qu'on ressent tous très profondément quand on utilise des sites, parce qu'on a des problèmes, parce qu'on a des difficultés. On ressent surtout la non-qualité d'ailleurs. La qualité, on la sent un peu, mais on la sent moins fort que la non-qualité. Voilà, ça c'est ma définition de la qualité web. Et puis après, mon domaine d'expertise, c'est plutôt maintenant l'assurance qualité web, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour maîtriser ce sujet dans les organisations et quand on fabrique des sites.
Ma définition est proche de celle d'Elie, ne serait-ce que parce que j'ai été formée par Elie. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est le côté les attentes implicites et explicites. C'est-à-dire que oui, les gens savent, ils vont être capables de dire, bah moi, quand j'arrive sur un site, j'ai envie qu'il soit beau, j'ai envie de tel truc. Et il y a plein de choses, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont envie. Ils ont envie que ça marche, ça paraît évident. Et il y a énormément d'attentes non explicites. Et je trouve ça hyper intéressant aussi de les avoir en tête au moment où nous, on conçoit les sites web.
D'accord. Et alors, tout à l'heure, tu disais, Elie, que tu venais notamment de la chimie. Quand on pense qualité, on peut penser dans la qualité dans la construction, la qualité dans l'alimentaire. Il y a souvent des définitions très précises ou des référentiels. Il n'y a pas une définition précise, formalisée, un référentiel type ISO ou normalisé?
Alors, il y a la définition de l'ISO, hein, ouais. Effectivement.
La définition, c'est un organisme de normalisation.
Voilà, l'aptitude d'un objet ou d'un service à répondre à des exigences. Ça, c'est la définition de la qualité générale, voilà. Ça ne dit pas quelles sont ces exigences et c'est ce qui fait la subjectivité. Hein, parce qu'effectivement, sur un site, tu vas te retrouver avec des gens qui aiment beaucoup certaines choses et d'autres qui n'aiment pas du tout. La notion de qualité sera complètement subjective. Donc, on a effectivement des référentiels. Dans le domaine... alors ça, c'est pour la qualité au niveau général. Quand on s'intéresse spécifiquement au web, là, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est un secteur qui est beaucoup plus récent, qui est, d'après moi, en cours d'industrialisation. Et donc, évidemment, toutes ces questions de gestion de la qualité, de réflexion sur la qualité, ça émerge progressivement. Donc oui, des référentiels, on essaye d'en faire. Donc, moi, j'ai travaillé sur notamment une checklist documentée.
On en parlera tout à l'heure, oui.
Voilà. Je ne veux pas aller plus vite que la machine, mais on en parlera. Elle est sous licence ouverte. Voilà. Donc, ça émerge progressivement.
D'accord. Donc, c'est en construction. Il faut rappeler aussi que tout ça, c'est relativement récent, l'informatique, finalement. Alors, finalement, on peut se poser la question, pourquoi faire de la qualité web à la fois quand on crée des sites web et à la fois quand on utilise des sites web. Quel est l'intérêt pour ces deux types de publics qui sont forcément différents, qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques? Moi, de ce que j'en comprends, la qualité web pour les personnes qui utilisent le web, c'est pour éviter les frustrations et permettre finalement de répondre à leurs besoins, que ces personnes-là connaissent leurs besoins, ou comme tu le disais tout à l'heure, Delphine, qu'elles ne le connaissent pas, en fait. Mais j'aimerais savoir quel est l'avantage pour les deux types de publics. Toi, par exemple, donc Delphine, tu travailles dans une entreprise, Equino, tu peux d'ailleurs expliquer ce que fait l'entreprise. Quel est l'intérêt de faire de la qualité web pour l'entreprise Equino?
Alors, Equino, je vais dire de manière très générale que c'est une agence web, plus particulièrement, c'est un prestataire qui aide à la transformation digitale. Voilà. C'est une agence web.
On va traduire ça pour les personnes qui nous écoutent. Vous créez des sites web, principalement, voilà.
C'est ça. L'intérêt, évidemment, donc nous, on a des clients qui viennent nous voir pour leur créer leur site web ou leur service en ligne. L'intérêt, c'est que derrière ce service, ce site soit réussi. Pour qu'il soit réussi, il faut qu'il corresponde aux attentes, alors, de la personne qui vient nous voir, mais la personne qui vient nous voir, elle souhaite que ça réponde aux attentes aussi des gens qu'elle vise. Elle veut que les gens viennent utiliser leur site. Donc, nous, on a toute cette chaîne-là, entre guillemets, à satisfaire. Donc, voilà, notre but, ça va être de satisfaire les utilisateurs finaux. L'intérêt pour nous, évidemment, c'est de faire une bonne prestation vis-à-vis de nos clients. Et puis, je pense qu'aussi, on a un intérêt. Les gens qui travaillent chez nous, comme dans d'autres agences, ont envie de bien faire leur travail. C'est quelque chose qui est assez vrai, je pense, dans le web en France. Donc ça aussi, ça participe au fait que l'entreprise dans laquelle je travaille souhaite mettre en place un poste de responsable qualité, souhaite mettre en place des différentes actions pour la qualité des sites qu'on produit.
D'accord. Alors, avant de passer la parole à Ellie sur la même question, ce poste de responsable qualité web, c'est quelque chose qui est classique, ou c'est un poste qui existe peu, en fait? Parce que finalement, si j'en comprends bien, toi, c'est ton poste à toi. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment développé, ou est-ce que dans d'autres types de structures, donc agence web ou autre type d'entreprise, c'est plutôt un poste à temps partiel, entre guillemets, ou peut-être même qui n'existe pas, d'ailleurs?
C'est un poste très, très rare. Ouais. Donc, avec Ellie, on connaît quelques personnes qui l'exercent. Effectivement, comme tu le dis, certains à temps partiel. Je crois que je connais une autre personne qui l'exerce à temps plein, qu'on connaît en commun. Donc oui, c'est un poste qui est encore très rare et qui est qu'on découvre et qui est différent d'une entreprise à l'autre. C'est vraiment quelque chose de très nouveau.
D'accord. Donc même question Ellie tout à l'heure, donc je reviens sur ma question présente, sur l'intérêt pour la structure qui crée un site web. Donc ça peut être une agence web, ça peut être une collectivité, une entreprise, une association, et l'intérêt pour les personnes utilisatrices. Là-dessus, c'est quoi les intérêts, en fait?
Oui, alors pour les utilisateurs, en fait, en 2001, avec un collègue qui s'appelle Eric Gâteau, on a créé un modèle qui est disponible en ligne, qui s'appelle VPTCS, et qui synthétise les exigences des utilisateurs. Et où est l'enjeu? Peut-être qu'on en reparlera rapidement.
Non, tu peux le dire, mais tu peux juste te dire ce que je veux dire.
Visibilité, voilà. Perception technique, contenu, service, et pour le mémoriser, on a « va pas te croire supérieur ».
Voilà. Ah, j'avais même pas fait attention. VPTCS, d'accord.
Voilà. Et si je le synthétise pour un utilisateur, et pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment, est-ce que lorsque vous cherchez quelque chose sur Internet, est-ce que vous le trouvez facilement? Ensuite, une fois que vous avez trouvé le site, est-ce que c'est facile à utiliser? Techniquement, est-ce que ça marche? Sécurité, performance, rapidité, est-ce que le site s'affiche rapidement? Ensuite, est-ce qu'au niveau des contenus, ce que vous lisez, ce que vous consultez est de bonne qualité? Et à la fin, lorsque par exemple vous avez utiliser quelque chose, que vous allez réutiliser, une demande, un service, un produit que vous avez acheté, est-ce que tout ça va se passer après la visite dans des bonnes conditions? Et c'est toute cette chaîne entre le moment où j'ai besoin de quelque chose sur le web et la fin où je vais effectivement avoir cette chose, peut-être même jeter l'emballage, voilà, ou reçu un produit de très loin. Est-ce que tout ça s'est passé de manière fluide, et comment le site web a aidé à faire ça? Ça, c'est l'enjeu utilisateur.
D'accord.
Il a évidemment un enjeu majeur du côté des entreprises, parce que les entreprises ont besoin aussi que ça se passe bien et que ça se passe vite. Et puis pour les entreprises, donc il y a évidemment satisfaire les utilisateurs, qui est quand même pour beaucoup d'entreprises quelque chose de très important. Il y a des enjeux économiques, parce qu'il y a énormément de coûts de non-qualité dans les entreprises. Fabriquer un site, ça peut conduire à faire...
Ah vas-y, je te laisse, mais je compléterai par une question sur ce point-là, vas-y.
Avec plaisir. Donc effectivement, des pertes, comme on peut en voir d'ailleurs dans le bâtiment, dans d'autres secteurs. Hein. Le web, c'est aussi un truc où on fait, où on refait, où on casse, où on fait des choses pas bien, où l'utilisateur a des problèmes, des retours produits, des choses comme ça. Tout ça, c'est économiquement des enjeux qui sont... pas très visible, toute la partie écologique aussi, l'impact du numérique, hein, ce sont des coûts, et ce sont des coûts sociaux, environnementaux, voilà. Et puis il y a ce dont a parlé Delphine également, la partie valeur, la partie développement durable, le fait qu'on soit, quand on travaille comme un professionnel du web dans une entreprise, qu'on fasse des choses qui correspondent quand même à des enjeux éthiques et déontologiques corrects. Donc c'est tout ça. Et on trouve les enjeux de la qualité dans l'industrie.
D'accord. Alors, avant que Delphine parle de ce point, je rebondis sur le terme de non-qualité et des coûts. Est-ce que les entreprises, ou enfin, les structures, on va dire en général, sont capables de quantifier le coût de cette non-qualité? Et inversement, est-ce qu'elles sont capables de se dire qu'avoir un poste dédié, ou en tout cas une personne avec un temps suffisant sur de la qualité web, apporte quelque chose qui est supérieur finalement au coût de la personne? Je sais que la question n'est pas évidente, hein, parce que je ne sais pas si c'est quantifiable.
Malheureusement, c'est assez quantifiable sur les sites de e-commerce, et il y a eu déjà un travail important qui a été fait sur ces sujets-là. C'est beaucoup plus difficile à quantifier sur des choses qui sont de l'ordre du ressenti, qui sont de l'ordre du confort, de la fidélisation. Donc on manque effectivement d'indicateurs, et ça aussi c'est un signal qu'on est en cours d'industrialisation, c'est-à-dire que faire un site, c'est encore un petit peu artisanal.
D'accord.
Donc on n'en est pas encore à avoir des indicateurs massifs sur ce sujet. En revanche, dans la fabrication automobile, par exemple, on a pu mesurer, par exemple, que les bruits des portières avaient des impacts majeurs sur les actes d'achat et sur la perception de la qualité. Voilà, c'est des choses qu'on voit apparaître progressivement, des observations comme ça sur le web. Mais d'accord, on est au tout début de ça.
D'accord. Alors justement, Delphine, on reviendra après sur le côté éthique et développement durable, mais poursuivre juste sur cette question-là. Qu'est-ce qui a convaincu finalement Equino d'avoir ce poste un petit peu unique quelque part?
Alors, il faudrait leur demander à eux.
D'accord.
Moi, je suis arrivée... Alors, si j'ai bien sûr une part de la réponse. Je suis arrivée chez Equino pour créer le poste.
D'accord.
Et en fait, il y avait chez mes patrons déjà une forte conviction de l'intérêt de ce sujet-là, avant même justement tous ces indicateurs où on parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années. Et il y avait une vraie volonté de faire les choses bien et de pouvoir aussi les attester par un tiers. Et c'est là aussi on a rejoint HopQuest, mon entreprise Equino est partenaire HopQuest, parce que justement HopQuest c'est aussi un tiers, c'est quelqu'un de l'extérieur qui, avec un modèle, vient parler de la qualité de ce qu'on fait nous. Donc ça aussi c'était important, vraiment l'aspect le faire, mais ce que je me rappelle très bien, mon patron disait à l'époque, bon, tous nos concurrents disent qu'ils font de la qualité. Nous, on ne va pas être le seul à le dire, il y a quelqu'un qui va l'attester derrière.
C'est-à-dire que pour ne pas être les pipoteurs du web, quoi, c'est ça? Entre guillemets.
Après, il y en a qui vont faire de la qualité et sans attester. Mais voilà, puis il y en a qui vont le dire, qui le font, et ils vont faire autre chose.
D'accord. Ok. On reviendra tout à l'heure évidemment sur HopQuest, le modèle, etc. On va revenir donc sur l'intérêt pour les internes et externes. Ellie disait que tu souhaitais parler, toi, de la partie éthique, développement durable, si je me souviens bien des termes, c'est ça?
Alors, j'avais pas prévu, mais je peux en parler.
Je crois.
Effectivement, bah, après, ça fait partie, on va dire, d'un état d'esprit global qui est vrai dans la boîte où je travaille, mais qui va être vrai ailleurs. Y a cette volonté de faire les choses correctement, et correctement, ça veut dire aussi correctement pour les gens derrière qui utilisent. Et même en fait en interne, de manière générale, je pense j'ai l'impression depuis que je travaille dans le web qu'on est vraiment dans une période où les gens qui travaillent dans ces industries ont envie de quelque chose qui ait du sens, et qui soit... Enfin, je pense que c'est pas pour rien si les, tout ce qui est RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale, tout ça, ça arrive en ce moment. Donc la RSE, quasiment toutes les entreprises maintenant ont une démarche liée à ça, évidemment la nôtre aussi. Et je pense que voilà, c'est pas un hasard si ça arrive en ce moment et s'il y a une forte adhérence, en tout cas en interne, pour ces sujets-là. Ce qui vont faire que, de manière globale, va y avoir une forte adhérence pour les démarches liées à la qualité web, à la qualité de ce qu'on produit et à l'état d'esprit dans lequel on le fait. D'où l'accessibilité aussi.
D'accord. Alors justement, quel est le lien entre qualité web et accessibilité ?
En fait, la qualité web, c'est quelque chose qui est transverse. Puisque le site est composé de plein de disciplines différentes. Une de ces disciplines... Discipline, c'est pas forcément le mot, une de ces thématiques, ça va être l'accessibilité, qui elle-même est déjà transverse à différents métiers, à différentes interventions sur le site. Mais au sein de la qualité web, va y avoir aussi la performance, va y avoir aussi ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement naturel, le fait que les moteurs de recherche trouvent le site quand on fait une requête correspondante. Il va y avoir justement la technique, etc. Donc la qualité web est transverse et l'accessibilité est une part de ce qui constitue un site. L'accessibilité numérique, fait que les gens puissent y accéder, quelles que soient leurs conditions d'accès.
Alors, avant de laisser la parole à Elie, on en a parlé récemment de l'accessibilité numérique, mais je ne me souviens plus du numéro de l'émission, mais je vous le donnerai tout à l'heure. Elie ?
Oui, simplement pour compléter peut-être et éclairer une partie de ce qu'a dit Delphine. Les gens le savent peu, mais d'abord il y a beaucoup de personnes handicapées qui accèdent au web. Il y a des enjeux énormes sur le fait que les personnes handicapées puissent accéder au web, et ils vont utiliser un certain nombre d'outils qui vont faire que dans un certain nombre de conditions, ça sera très difficile pour eux, par exemple, de vocaliser le site ou d'accéder aux sous-titres, etc. C'est en complément de ce que vient de dire Delphine. Et donc on a tout un travail autour du fait que les sites ne bloquent pas les personnes handicapées lorsqu'elles arrivent sur le site. Donc ça, c'est tout le chantier de l'accessibilité aux personnes handicapées. Quand on parle d'un site accessible, c'est pas un site disponible ou c'est pas un site facile à comprendre, oui. C'est vraiment un site accessible aux personnes handicapées, quand on parle de ça entre professionnels. Et après, on a plein d'autres enjeux. Il y a ceux qu'a cité Delphine, le référencement dans les moteurs de recherche, la performance, mais alors je vais en ajouter quelques-uns, la préservation des données personnelles, dont vous avez parlé dans votre chronique, dans la chronique qui était juste avant, la sécurité, effectivement, essayer de faire en sorte que à la fois les serveurs et les personnes soient protégés. La qualité du service en lui-même, l'éco-conception, c'est-à-dire faire en sorte que les sites aient un minimum d'impact sur l'environnement et sur les émissions et sur la consommation de déchets, etc. Donc en fait, juste un site web, quelque chose qui a l'air d'assez simple, entre ce qu'a dit Delphine et ce que j'ai dit, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et effectivement, l'assurance qualité web qu'on essaye de faire émerger dans ce secteur, c'est de piloter globalement toutes ces activités-là.
D'accord. Je précise que l'émission sur l'accessibilité en informatique, c'est la 117, donc vous allez sur libreavoue.org/117 et vous arriverez directement sur le podcast et sur la transcription. Avant de parler un petit peu de savoir comment on fait en pratique de la qualité web, j'aurais juste une petite précision, parce que tu viens de parler d'assurance qualité web. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler ou nous expliquer quelle est la différence que tu fais, même si tu l'as dit un petit peu en introduction, mais pour être sûr qu'on comprenne, entre qualité web et assurance qualité web ?
C'est simplement lié à une erreur de ma part. J'ai très très longtemps parlé de qualité web sans vraiment tenir compte du fait que ça allait être perçu comme quelque chose de très 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 subjectif par voilà. Et donc il y a 2 ou 3 ans, j'ai décidé de renommer le livre dont on a sorti, qui s'appelle maintenant Assurance Qualité Web, mais qui s'appelait Qualité Web, pour essayer de mettre en évidence le fait que ça n'est pas un jugement sur les sites, mais plus une démarche d'amélioration et une activité, comme on a une démarche de communication dans les entreprises, on a une démarche, je sais pas, moi, il y a des démarches marketing, il y a des démarches techniques, informatiques, et là, il y a une démarche qui existe déjà dans toute l'industrie, qui est les démarches d'assurance qualité, comment je maîtrise la qualité des choses, eh ben on essaie de faire en sorte que ça arrive dans le web aussi. Et cette notion-là de choses, de démarche objective d'amélioration continue, on essaye de distiller cette idée-là de plus en plus.
D'accord. Delphine ?
Oui, c'est vrai qu'en plus, cette notion, elle est importante parce que moi, quand je me présente dans une nouvelle entreprise, que j'arrive avec mon titre ronflant de responsable qualité, c'est vrai que la première chose qu'il faut que je désamorce, c'est non, je ne suis pas là pour venir contrôler ce que vous avez fait. Non, je ne suis pas là parce que vous ne faites pas de la qualité et avec moi, vous allez en faire. Et donc, c'est vrai que c'est très important, ce mot d'assurance qualité, parce que ça permet en fait de faire comprendre, moi, je suis là pour être un outil pour vous, vous aider à faire ce que vous avez envie de faire. C'est vous qui connaissez la qualité, c'est vous qui la faites. Et moi, je viens accompagner cet élément-là.
D'accord. Bah, écoute, ça fait une très bonne transition avec la thématique suivante, c'est comment on fait de la qualité web en pratique. Alors, j'ai un peu envie de commencer par demander, tout à l'heure, Élie, tu as parlé du modèle VPTCS, donc visibilité, perception, technique, contenu, service. Et il y a aussi le modèle, on va dire, UpQuest. Hein. Ah, c'est-à-dire quoi, UpQuest, d'ailleurs
Ça veut dire Open Quality Standards.
Donc des standards des standards de qualité ouverts.
Effectivement.
Et donc, il y a une notion de bonne pratique, avec 240 bonnes pratiques. Donc, est-ce que faire de la qualité web, c'est s'assurer que quand on développe un site web, on respecte ces 240 bonnes pratiques, ou pas ?
Alors non, effectivement, en tout cas, ça peut être une optique, c'est de se dire, voilà, j'ai une checklist. Donc, c'est une checklist qui existe depuis 2004, donc qui est sous licence ouverte, que vous pouvez télécharger librement, qui est documentée, disponible en trois langues. Donc ça fait 240 fiches documentées, disponibles en trois langues, soit 720 fiches. C'est un contenu énorme, tout en licence ouverte. Et Creative Commons, hein, tu les as cités tout à l'heure, sans clause commerciale. Et effectivement, le réflexe avec une checklist, c'est de se dire, tiens, je vais respecter. Et pendant très longtemps, on a travaillé sur cette notion qui sous-tend l'évaluation. C'est-à-dire, je prends mon site, je prends une checklist et je regarde si je respecte ça. On est dans le domaine de l'inspection technique, au même titre qu'on inspecterait une voiture. On inspecte un site web. Depuis 5-6 ans, j'ai personnellement changé complètement de vue en disant, le plus important n'est peut-être pas d'être conforme, de respecter une checklist, mais plutôt d'être capable de dire ce point-là, je l'ai regardé et je sais si je suis conforme, je sais si je suis pas conforme et surtout je connais les conséquences. Un peu l'optique du pilote d'avion qui décolle en ayant certains points qui sont rouges, d'autres qui sont oranges, d'autres qui sont verts, et quelquefois il y a des choses qui peuvent être rouges, on décolle pas, des choses qui sont oranges, eh ben on peut décoller quand même, et puis des choses qui sont vertes, on peut y aller. Et on maîtrise le risque. Donc, au stade où j'en suis de la démarche, c'est se dire, même si je fais un site web d'association, un site web même personnel, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui occupent de sites, voilà, de sites d'associations, de parents d'élèves, etc. Ou voilà. Eh bien, je regarde cette checklist non pas pour dire, oulala, je suis super, je suis parfait. Plutôt, non, je maîtrise ce qui se passe et je ne vais pas avoir de mauvaises surprises. Je pense à un maximum de choses.
D'accord. Ouais. Et donc cette checklist donc de 240 règles essaie de couvrir plusieurs thématiques globales. Donc ça va, il y a des thématiques techniques, il y a des thématiques utilisatrices, des thématiques accessibilité.
Il y a un peu de tout, puisque c'est la qualité, ouais.
Voilà. Donc par exemple, je te laisserai éventuellement citer une ou deux qui te plaisent bien. Alors forcément, j'ai regardé la règle numéro 42 en tant que geek. Hein. Alors je précise que je les ai toutes regardées, hein, en fait. Et la règle 42, c'est. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est très court. C'est-à-dire que c'est pas des règles très très longues, etc. C'est très factuel, etc. C'est bien expliqué. Donc la règle 42, c'est par exemple les conditions de fonctionnement du service après-vente sont indiquées. Donc tu parlais tout à l'heure des sites de e-commerce et effectivement c'est si on se place d'un point de vue utilisateur ou utilisatrice, le fait qu'on puisse savoir comment va fonctionner le service après-vente est essentiel quand on va commander.
Quelquefois ça rattrape complètement l'expérience qu'on a eue sur un site, hein. C'est-à-dire qu'on a acheté quelque chose, c'est désastreux et là on va devoir faire appel à un service après-vente ou à un support. Et ben là c'est important de savoir si on va devoir payer pour l'utiliser, quels vont être les horaires d'ouverture. Voilà, il y a un certain nombre de règles comme ça et ça c'est typiquement un exemple de truc ou de règles. Donc maintenant on parle plus trop de bonnes pratiques, on parle carrément de règles parce qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin que des bonnes pratiques. On essaie maintenant de dire voilà, on a des choses qui sont argumentées par l'utilisateur.
Alors je vais en citer une deuxième pour montrer en fait aussi que il y en a qui sont beaucoup plus techniques mais que celle-là est très simple et après Delphine va intervenir. La règle numéro 6, la date de publication des contenus qui le nécessitent est indiquée. Et ça, c'est vrai qu'en tant que personne qui lit beaucoup de contenu, je suis totalement agacé quand je lis des articles où il n'y a aucune référence de date, et on ne sait pas si l'article a été publié il y a 6 mois, il y a 10 ans, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre, parce qu'il suffit juste de mettre la date de publication. Donc c'est pour montrer que ces règles, en fait, ce ne sont pas des règles qui sont forcément très compliquées à mettre en œuvre, en fait.
Pardon, vas-y.
Delphine ?
Oui, non, c'est une des choses aussi. Moi, je présente régulièrement Upquest au sein de mon entreprise à mes collègues. Et un des retours aussi que j'ai, c'est ils sont en général enthousiastes de voir toutes ces règles parce qu'ils disent Ah, mais oui, ça c'est important. Ah, mais oui, ça c'est. Il faut y penser et on n'y pense pas toujours. Des fois, c'est des choses qu'on fait tout le temps et ils vont se dire c'est bon, on le fait tout le temps. Et puis, il y a d'autres fois où ils vont se dire ah bah oui, tiens, ça c'est important et ça peut être oublié ou etc. Et en tout cas, il y a un enthousiasme et une adhésion parce que ces règles-là, quand on les lit, même en tant qu'utilisateur, toutes celles qui sont sur le e-commerce, les gens d'un seul coup se placent plutôt en tant qu'utilisateur ou utilisatrice. Et là, ils se disent ah bah oui, ça je veux que le site le fasse. Donc il y a vraiment cette forte adhérence-là qui est assez plaisante.
Alors on va continuer à parler des règles et puis de la qualité web. Après la pause musicale, je vais juste préciser que les liens et références utiles sont sur le site de l'émission libreavoue.org. Hein, vous trouverez le lien vers le Upquest, vers ces règles, etc., les 240 règles. Mais on va déjà faire une pause musicale. Nous allons écouter Star Swimming par Props. On se retrouve dans 3 minutes 30, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. Darkness.
Nous venons d'écouter Star Swimming par Props, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc avant la pause musicale, nous parlions de qualité web web avec nos invités Delphine Malassaigne et Élise Lohim. Nous allons poursuivre la discussion. Donc juste avant la pause, on expliquait un petit peu comment faire de la qualité web. On a parlé un petit peu des règles UpQuest dont on va reparler. Mais là, on va réattaquer avec un petit peu le retour d'expérience de Delphine. Hein, donc tu es responsable qualité web. Donc comment ça se passe ton travail à la fois en interne dans l'entreprise Equino et puis quand tu vas chez des en clientèle?
Alors, il y a plusieurs aspects. Donc, évidemment, UpQuest est un des aspects et je dirais que c'est un aspect opérationnel. On a cette checklist et puis surtout, cette checklist et la certification qui va avec, parce qu'on peut certifier des personnes à UpQuest. Cette certification permet d'avoir un bagage commun, une base de connaissances commune au sein de l'entreprise. On parlait tout à l'heure du fait que la qualité était transverse. Cette certification, pourquoi c'est transverse, et du coup s'adresse à tous les profils, que ce soit des profils techniques, des profils design, ou même des profils qui, simplement, parce qu'ils travaillent dans une entreprise web, voudraient avoir une base commune, une base de connaissances commune. Donc ça, c'est un des premiers aspects au UpQuest, et peut-être que Élie recomplétera dessus, mais du coup, je vais parler aussi des autres aspects. Et ces autres aspects, en fait, c'est très intéressant parce que moi, je l'exerçais dans deux entreprises très différentes. La première était un annonceur, et donc là, je suis dans une grosse agence. Le métier, à chaque fois, je disais, c'est un métier rare, c'était des créations de postes, et c'est un métier qu'il a fallu inventer. Et il ne s'invente pas du tout de la même façon dans une entreprise ou une autre. La première fois, j'étais dans une petite équipe technique qui faisait appel à des grosses agences externes pour faire ces sites web. Et là, ce dont on avait besoin, ce que je faisais, c'était créer des... guider un peu les demandes qu'on avait, donc beaucoup de documentation par exemple, en listant des spécifications, des cahiers des charges, en listant ce qu'on voulait comme niveau de qualité sur notre site, comment ça devait être fait, etc. etc. Donc ça, c'était un premier aspect dans ce contexte-là. Évidemment, quand je suis arrivée dans une grosse agence web, la problématique n'était pas la même. C'était une boîte, on va dire, au niveau de l'évolution de la boîte, c'était plus une jeune boîte, c'était une adolescente qui était en train de se professionnaliser. Donc, il y avait beaucoup d'équipes au sein de cette agence qui travaillaient pour différents clients et avec des expertises différentes. Et chacun avait développé sa propre qualité et sa propre... là, c'était la façon de faire les choses. Et... j'ai beaucoup travaillé en arrivant sur l'homogénéisation en fait entre les équipes, aller chercher les bonnes idées chez les uns et les autres, réunir les bonnes personnes pour que tout le monde puisse savoir quelles étaient les bonnes façons de faire, et ensuite avoir un socle commun auquel UpQuest participe à nouveau par rapport à cette base de connaissances dont je parlais.
D'accord. Tu as parlé de certification, donc ça c'est intéressant parce que une partie, alors je ne sais pas si c'est toute l'activité d'UpQuest hein, d'ailleurs, tu vas peut-être préciser Élie, il y a cet aspect effectivement certification, donc il y a ces règles et on peut devenir certifié un petit peu comme les tests de langage je suppose avec un certain nombre de points sur le maximum, c'est ça? Comment ça fonctionne la certification UpQuest?
C'est ça, effectivement on a trois activités chez UpQuest. La première, c'est de produire ces contenus, ça nous occupe un travail absolument énorme parce qu'en plus c'est des contenus de référence et qui sont disponibles en libre téléchargement.
Donc oui, c'est important de préciser qu'ils sont disponibles directement sur le site.
Ouais, voilà. Ces contenus sont disponibles en trois langues.
Lesquelles langues? C'est français, anglais, espagnol.
Anglais, français, espagnol. D'accord. Voilà, 720 fiches, tout ça est peut-être récupéré, mais évidemment, on ne vit pas de ça. L'entreprise finance effectivement ses activités par deux activités, d'une part une formation certifiante qui marche comme le TOEIC, donc un score entre 0 et 1000 points, et qui se positionne comme un socle de compétences pour les professionnels du web, mais du monde entier. Et puis on a également, on fait vivre un écosystème de partenaires dont fait partie Equino. Voilà. Et donc pour revenir à cette formation, effectivement c'est une formation qui concerne des personnes individuelles, qui a été suivie maintenant par un peu moins ou peut-être un peu plus de 15 000 personnes en 6 ans, ça fait 6 ans qu'on a commencé. Là on commence fortement en anglais, on est disponible également en espagnol, et l'idée c'est que les professionnels, soit demandeurs d'emploi, étudiants ou professionnels en poste se dotent d'un socle de culture commune en se servant de ces règles et en se servant aussi de tout le vocabulaire que ça va donner. Que les gens se comprennent, que les gens travaillent bien ensemble et qu'ils aient le même socle en matière de qualité. Après, c'est important pour nous de travailler avec des partenaires parce qu'il y a plein d'autres sujets, comme on disait tout à l'heure, à explorer, à creuser sur accessibilité aux personnes handicapées, vie privée, RGPD, tout ce qu'on a dit,
performance, référentiel général de protection des données personnelles.
Voilà, oui, excuse-moi, référentiel, règlement général.
Règlement général.
Ouais.
Des protections des données.
Double reprise.
Oui.
Règlement général de protection des données qui est européen. Donc, effectivement, voilà, nous on propose ce socle-là et ça, c'est notre principale activité.
D'accord. Delphine, tu voulais réagir ?
Une toute petite parenthèse, vas-y. Mais qui est intéressante justement sur cette certification des personnes qui sert à avoir une base commune, sert aussi, parce que mes collègues me font des retours, ça leur est arrivé justement en étant avec chez le client, de pouvoir argumenter auprès du client en disant il y a des choses avant, ils sentaient que c'était pas une bonne pratique, ou alors ils le savaient, mais ils savaient pas que c'était, ils savaient pas comment expliquer au client, non en fait c'est une règle et voilà la raison, etc. HopQuest, cette base de commune leur permet, leur apporte aussi cette argumentation là.
Oui, ils peuvent le renvoyer sur quelque chose qui est entre guillemets officiel ou en tout cas
tiers de confiance avec lequel voilà. Être d'accord ou pas.
Ou pas,
c'est ça
discuter,
qui est rigolo, c'est-à-dire voilà. Qu'on peut se dire, bon voilà, ils disent ça, si ça se trouve, quoi, se dit des bêtises, mais au moins on est en train de discuter de ce qu'ils disent.
D'accord.
Et puis au-delà de ça, ça a été expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas expliquer. Et là, grâce à la fiche HopQuest, ils peuvent
l'expliquer. Dans la règle, effectivement, on explique la règle, on explique les raisons et aussi comment les mettre en œuvre. Je vais juste rappeler que si vous avez des personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions ou si vous voulez réagir, vous venez sur le salon web de la radio, hein, sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Je voulais revenir d'ailleurs sur ces, tout à l'heure, je ne sais plus quel terme tu as employé, Élie, mais pour que les gens comprennent bien, en tout cas le sentiment de ma compréhension, c'est qu'en fait c'est un processus quelque part, la qualité web ou l'assurance qualité web, c'est un processus continu. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment on peut se dire c'est fini ? Est-ce qu'à un moment on peut se dire tiens, là j'ai fini, j'ai fait les 240 règles, ou est-ce que... Mais j'ai l'impression que c'est un processus qui en fait continue, jamais fini en fait. D'amélioration continue, j'entends.
C'est ça, c'est un processus d'amélioration continue, donc la réponse est non. Comme l'amélioration de l'accessibilité aux personnes handicapées, comme l'amélioration de la sécurité, comme le travail sur la diffusion du logiciel libre, ça ne s'arrêtera pas. C'est une fonction. Voilà, dans une entreprise, il y a une fonction communication et il faut l'entretenir, y travailler tous les jours et a priori, ça ne s'arrêtera pas. Ben là, la fonction assurance qualité, c'est pareil. Comment est-ce qu'on maîtrise la qualité de ce qu'on fait quand on fait un site ? Et il faudra continuer à la maîtriser parce que bah, tant qu'il y aura des sites, il faudra continuer à maîtriser ça. Donc non, c'est une démarche sans fin. Et c'est important de savoir, on peut avoir un objectif, c'est un chemin en fait.
D'accord. Question sur tout à l'heure tu disais que donc vous faisiez des formations certifiantes HopQuest. Est-ce qu'il faut des compétences de base, par exemple en web, avant de faire de la qualité web ? Est-ce qu'il faut savoir écrire du HTML, qui est le langage d'écriture de page web, ou du PHP, qui est un langage de programmation ? Ou est-ce que finalement, une personne qui n'a aucune de ces compétences, hein, qui vient d'un autre monde, peut faire de la qualité web en suivant ces formations ?
Ben en fait, on a un point de vue qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, on part de la règle utilisateur avec HopQuest, qu'on a dit par exemple, je sais pas moi, la date des contenus est indiquée, alors on peut le faire de manière programmatique, compréhensible aux machines par exemple, et c'est à partir de cette règle utilisateur, on va prendre la règle, on va dire à qui elle sert et dans quel contexte elle sert. Alors ça, c'est tout le monde peut le comprendre et ça fait partie des compétences de la certification. Mais après, on va dire comment on fait. Et on va documenter la règle. Et c'est quand on regarde dans le comment on fait qu'on commence à dire, eh bien là, vous allez devoir aller regarder le HTML. Voilà. Et effectivement, c'est une façon de rentrer. On a fait un travail avec la belle école, l'école de Emmaüs du groupe.
D'accord.
Voilà. On leur a mis à disposition pour des gens qui voulaient rentrer dans ce secteur du numérique. Et on leur a mis à disposition et ça marche très très bien parce que en fait les règles vous aident à rentrer dans un contexte utilisateur. Qu'est-ce qui se passe pour les utilisateurs ? Qu'est-ce qui se passe quand on utilise un moteur de recherche ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. À partir de cette règle, en fait, on rentre dans le faire. Voilà. Dans comment on fait.
Mais alors,
donc,
si je comprends. Vas-y.
Pour répondre, juste pour finir à ta question, oui. Non, je ne pense pas que ça soit nécessaire au départ de maîtriser complètement le HTML. Par contre, ça peut être un outil pour rentrer. Dans
D'accord.
ce secteur du web, et ça semblerait pas mal marcher.
Ok, alors je vais compléter ma question, je vais laisser Delphine peut-être répondre. Est-ce que les deux peuvent être séparés? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut finalement entre guillemets rester à la partie utilisateur-utilisatrice des règles sans rentrer dans la mise en œuvre? Donc est-ce que quelque part, par exemple, une responsable qualité web peut ne pas se contenter, parce que c'est un mauvais terme, mais peut être au niveau effectivement de l'expérience d'utilisation et finalement la mise en œuvre, c'est plutôt les équipes techniques ou autres? Ou est-ce qu'il faut forcément avoir la capacité de faire les deux, Delphine?
Je suis pas sûre d'avoir compris ta question.
D'accord. Ben, est-ce que par exemple, quand on est responsable qualité web, est-ce qu'il faut être capable de mettre en œuvre une des règles, par exemple, en HTML ou en PHP ou autre? Ou est-ce que finalement, la simple compréhension de la règle, de l'explication au client, à l'équipe technique, suffit?
D'accord.
Est-ce que c'est plus clair?
C'est beaucoup plus clair. Voilà. Oui, alors sur les 240, par exemple, règles qu'il y a, moi je ne maîtrise pas les 240.
D'accord.
Pourtant, je vais voir mes collègues et je leur en parle et je leur explique, etc. Donc je pense que ça répond à ta question. Non, il n'y a pas besoin de maîtriser, tout simplement parce que à nouveau, on est dans des choses transverses. Donc ça, on n'attend pas du responsable qualité web qu'il soit un petit peu un designer, un petit peu un intégrateur, un petit peu un ingé bac.
Tu précises mieux ma question, quoi.
Voilà. Mais par contre, ce qu'on demande à cette personne, ça va être d'être capable de parler avec chacun de ces métiers, d'avoir un minimum de connaissances, de les comprendre et de savoir leur expliquer. Mais après, maîtriser et savoir faire à leur place, c'est pas l'objectif.
D'accord. Et est-ce que tes collègues, on va dire dans la partie technique mise en œuvre, est-ce que ces personnes ont lu les règles de leur côté ?
Alors, ça dépend desquels.
Parce que ça prend un certain temps de les lire, les 240.
Ça prend un certain temps de les lire, de les comprendre.
De les comprendre.
De les comprendre toutes, puisqu'elles s'adressent à différents métiers. Et notamment pour les profils qui sont plutôt des profils qui font les interfaces, aller comprendre des règles très techniques de sécurité, de paramétrage de serveur, par exemple, c'est déjà un petit travail en soi. Donc, non, ils ne les ont pas forcément tous lus. Alors, ça dépend. Il y en a qui souhaitent se faire certifier. Donc ceux qui se font certifier, forcément, les lisent toutes, les comprennent toutes, passent l'examen ensuite. Et puis, il y a des personnes qui vont juste s'intéresser au sujet et qui vont avoir une connaissance partielle. Il y en a qui vont certainement lire que celles qui les concernent, eux, par rapport à leur métier, ce qui ne...
Oui, parce qu'elles sont classées par thème, les règles.
On peut les classer par thème, oui. Et voilà. Mais après, moi, dans mon entreprise, il y a de plus en plus de gens... D'ailleurs... Depuis quelques années, il y a des gens qui arrivent chez nous, qu'on embauche, qui sont déjà certifiés. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui était rarissime. Maintenant, on en voit de plus en plus. Donc de manière globale, même s'ils n'ont pas tous lu, ils en entendent tous parler et ça se propage, je dirais, dans l'entreprise.
Élise Loïb, tu veux compléter ?
Oui, je voudrais dire quelque chose pour rebondir sur ce que vient de dire Delphine et pour les auditeurs. C'est qu'en fait, quand on fait de l'informatique ou quand on fait du web ou quand on conçoit un site web, on pourrait sembler comme ça des professionnels qui maîtrisons tous les sujets, qui nous intéressons à tous les sujets, à la qualité et tout ça. En fait, ça nous complexe énormément parce qu'il y a plein de sujets à maîtriser. Donc on a tous des complexes, on utilise tous des moteurs de recherche pour essayer de se retrouver, répondre à des questions, etc. Et bon, c'est un peu bateau en ce moment de parler de syndrome de l'imposteur, mais on a tous ça, c'est-à-dire être très, se sentir tout petit par rapport à tout ce qu'il faut savoir faire sur Internet, sur le web, sur l'informatique. Et donc, c'est vrai pour des professionnels en poste, faut pas croire, hein, faut voir que des gens qui travaillent sur du dessin d'interface, bah, ils peuvent être très complexés par rapport aux développeurs. Les développeurs peuvent se sentir aussi peu à l'aise sur le dessin. Et puis après, il y a tous les demandeurs d'emploi, tous les gens qui utilisent les sites et qui se disent voilà un secteur mystérieux, tellement technique, mais en fait on est tous tout petits par rapport à ça.
Oui, j'entends bien. J'ai une question alors qui n'a rien à voir, mais je viens juste d'y penser. On parle de règles, on parle d'humains, etc. Mais est-ce qu'il existe des outils par exemple pour entre guillemets un petit peu automatiser ou faciliter ce travail? Alors, je vais peut-être préciser ma question. Imaginons qu'on crée un site web avec un gestionnaire de contenu comme Spip par exemple, qui est un outil libre ou un autre, hein. Est-ce qu'il y a un sort de module, un plugin, hein, un greffon qui permet d'automatiser la vérification d'un certain nombre de règles? Alors, peut-être les règles techniques ou les règles moins techniques, est-ce que ça existe ou finalement ça n'existe pas, ça n'est pas possible? Qui veut répondre?
Alors, c'est
Delphine.
Partiellement possible. Bah, il y va certainement compléter. C'est partiellement possible.
Tu as tout dit.
Et oui. en fait, j'ai tout dit parce que ce partiellement est assez réduit. Je ne sais plus de combien, on estimait 15-20%, je crois.
Ouais.
Bon, une fois qu'on a lancé un outil, alors qui demande des développements, qui demande des mises à jour, puisque OpenQuest se renouvelle régulièrement, une fois qu'on a lancé cet outil, bon, bah, on est content, on a gagné 15% de règles qui ont été vérifiées. Voilà, ça y est.
Ok.
Le problème, c'est que la qualité pour les utilisateurs, bah, les utilisateurs, c'est des humains. Et tout ce qui va être de l'ordre de la perception de la qualité, de la confiance, du fait d'être rassuré face à un site web, etc. Tout ça, c'est de l'humain et c'est très, très difficile à automatiser. Donc, c'est un peu à double tranchant ce que dit Delphine, c'est-à-dire qu'en fait, on a très peu de règles à automatiser. Donc, la tentation, c'est d'avoir des outils qui vont nous aider à faire de l'automatisation et on va dire « Ouais, on est à 100% », comme disait Delphine. Mais en fait, on est à 100% de... un travail. Et c'est un truc très particulier dans l'informatique parce que comme c'est informatique, on voudrait que ça soit entièrement automatisable.
Oui,
mais quand vous fabriquez, quand vous faites travailler un ébéniste, il y a du travail manuel pour vérifier la qualité de ce qu'on fait. Et finalement, ce qu'on construit, c'est pas très différent finalement de ce qu'on construit dans le bâtiment avec des corps de métier qui interviennent, qui ont besoin d'avoir une base commune et qui vont intervenir à différents moments dans des ordres très différents.
D'accord.
Voilà.
Alors, tu as dit que ça évolue. Alors justement, j'ai une question. Comment évoluent les règles OpQuest? Est-ce que c'est... les règles, ces fameuses règles. Est-ce que c'est... Alors, on a bien compris que c'est OpQuest qui les édite, entre guillemets. Mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un processus ouvert? Est-ce que vous recevez des propositions? Comment ça évolue, ces règles? Là, vous êtes à 240. Au début, il n'y en avait pas. Vous n'avez pas commencé à 240, je suppose.
Ouais.
Donc, comment ça évolue, les règles OpQuest, en fait?
Alors, je vais vous dire comment ça marche maintenant. Et puis, je vais ouvrir un scoop. Je crois que Delphine n'est même pas au courant. Donc, on a commencé à travailler sur une liste de 190 règles. Et on a créé 190 forums en ligne en 2004.
D'accord.
Un forum par règle et on a commencé à discuter en disant voilà, chaque règle doit respecter un cahier des charges vérifiable, utile, pas de règles numériques, valable au niveau universel, etc. On a fait ce travail d'atelier pendant quelques mois en 2004, puis on l'a refait en 2010, puis en 2015, puis en 2020. Et à chaque fois, on retire des règles. Les règles OpQuest ne parlent que sur des choses qu'on est capable d'étayer complètement.
D'accord.
Il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas positionné parce que ça dépend. Voilà. À partir de l'an prochain, c'est pas encore officiel, mais on va essayer de basculer sur un système annuel de mise à jour parce qu'on a tellement souffert la dernière fois. On vient de passer 2 ans à tout redocumenter en 3 langues et le fait de basculer en 3 langues avec une formation certifiante, une certification derrière, c'est l'Himalaya. On a l'impression d'avoir grimpé un truc... c'est indescriptible ce qu'on a fait, l'équipe, dans les 2 dernières années, sur des contenus qui sont libres. Voilà.
D'accord.
Donc on risque de changer, essayer d'avoir quelque chose de plus continu.
D'accord. Tu veux réagir, Delphine, ou non?
Non, je dirais juste qu'une des choses que j'apprécie dans la façon dont c'est fait, c'est que c'est ouvert à participation, comme le disait Ellie. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous, qui allons utiliser ces règles ensuite, on peut venir prendre la main, on peut venir donner notre avis, on peut... voilà, c'est pas quelque chose qu'ils font dans leur coin et puis ils arrivent après en disant « voilà l'étape de la vérité ». C'est un travail. Alors, le gros du travail est de leur côté, mais c'est quand même une tâche qui nous partage.
D'accord. Quelle est l'évolution de la prise en compte de l'importance de l'assurance qualité web par les gens qui font des sites web? Alors, que ce soit, alors c'est peut-être pas la même d'ailleurs, dans les entreprises, dans les collectivités, dans le secteur public. Et d'ailleurs, j'aurais une question après plus précise sur le secteur public, notamment est-ce que vous avez des relations avec l'État ou les collectivités ou la DINUM, la direction du numérique de l'État. Donc, en 20 ans, quelle est l'évolution de cette prise en compte? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y a une vraie prise en compte, une vraie prise de conscience de l'importance de l'assurance qualité web?
Il y a 2 choses. Il y a le travail d'OpQuest qui se diffuse, les règles OpQuest, et il y a le travail sur l'assurance qualité, c'est-à-dire le secteur de l'assurance qualité web dans tout ce qui peut embarquer comme dimension, qui lui progresse énormément. OpQuest avance à son rythme, mais OpQuest n'a pas la prétention de dire au niveau mondial on va être l'assurance qualité web. C'est tout un tas de personnes qui agissent. Donc l'accessibilité numérique aux personnes handicapées a beaucoup évolué et c'est un secteur qui est en pleine ébullition. Ça fait partie de la qualité des sites. Le RGPD, donc Règlement Général de Protection des Données, a eu un impact majeur en 2018. La prise en compte de la sécurité est de plus en plus sérieuse. La prise en compte de l'éco-conception, le numérique responsable, c'est quelque chose qui est en train de se développer énormément. Ce qu'on voit, ce sont des secteurs qui se développent en silos. Le message que porte OpQuas dans cet environnement, c'est essayons de travailler en équipe et essayons de travailler de manière transversale. C'est un peu plus long. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus simple d'expliquer... voilà, c'est plus simple de dire allez voir un cardiologue ou allez voir un neurologue parce que vous avez un problème au cœur ou au cerveau que de dire travaillez de manière généraliste d'abord. Voilà, c'est un peu long à venir. Pour ta question sur les collectivités, effectivement, voilà. Il y a un travail énorme mené au niveau de l'accessibilité avec des moyens qui ne sont pas toujours énormes sur des petites collectivités. La DINUM travaille beaucoup sur ce sujet. Et travaille avec nous sur l'acculturation à l'assurance qualité. Il certifie des gens. Nous, on travaille avec plusieurs ministères, le ministère de l'économie, le ministère de l'écologie. Là, on est en train de commencer à travailler avec aussi les grands annonceurs, fabricants de sites, Leroy Merlin, SFR, Generali, des acteurs comme
la
ça.
La SNCF ?
Alors, la SNCF, ça fait des années. Il y a quelques acteurs comme ça qu'on est allé voir depuis des années. La SNCF, La Poste, certains acteurs comme Solocal ou Passe Jaune, dont on pense sincèrement que s'ils nous avaient suivis il y a 15 ans, ils seraient leaders mondiaux.
Alors, Solocal, c'est quoi ? Parce que je...
Solocal, c'est Passe Jaune.
Ah, c'est Passe Jaune, d'accord.
Voilà, okay. Tant pis, je les dénonce. Mais voilà, j'ai fait une formation chez eux en 2003. Ils fabriquaient des sites. Et s'ils avaient fait ce pari de l'assurance qualité, parce que les critères, ils sont vieux, ils tiennent, ils sont solides, je pense qu'ils seraient...
Pouf ! D'ailleurs, j'ai une petite question. Quand tu arrives sur un site, d'ailleurs pour les deux personnes d'ailleurs, pour Delphine aussi, quand vous arrivez sur un site, là vous dites ah, franchement, c'est de n'importe quoi ce qui a été fait. Est-ce que vous n'avez pas le réflexe des fois de les contacter ? Soit à titre individuel en disant bah, hey, vous pourriez améliorer ici, machin, soit à titre professionnel. Est-ce que vous n'avez pas ce réflexe-là ?
Alors, moi non.
Delphine,
non. J'avoue que je suis. Je vais voir des choses. Après, si là où je vais. Le plus râler et le plus être tenté de rouspéter, c'est quand ça touche des points d'accessibilité.
D'accord.
Parce que les points d'accessibilité, oui. Là, ça veut dire, c'est pas que une gêne pour certaines personnes qui auraient bien aimé savoir, voilà, les réclamations, le service des réclamations. Là, on parle de personnes qui, parce que le site a mal été fait, vont être empêchés d'utiliser, au même titre que n'importe qui, vont être empêchés d'utiliser le service. Donc ça, c'est peut-être ce qui va me faire le plus râler.
D'accord.
C'est une discrimination.
Oui, tout à fait.
Donc, ouais. Moi, je n'ai pas de temps à perdre là. Je ne vais pas signaler. C'est rare que je signale des défauts. On essaye plutôt de travailler avec les gens qui sont conscients qu'il faut travailler là-dessus, que ça correspond à leurs valeurs, qu'ils ont envie de faire des choses. Ils n'y arrivent pas toujours, ça c'est leur droit. Ce n'est pas facile.
En fait, il y a déjà beaucoup de choses à faire avec les gens qui sollicitent
oui,
la démarche.
C'est bien résumé.
Donc, voilà.
Alors, je reviens sur la question, parce qu'on arrive bientôt à la fin, et donc la question finale, mais j'ai posé la question sur l'évolution à Ellie. Toi, te compter, quel est ton ressenti par rapport justement à cette prise en compte, de prise de conscience de l'assurance qualité web dans ton métier, soit auprès de tes collègues, soit auprès des clients? Est-ce qu'il y a une évolution positive? Comment ça se passe?
Auprès de mes collègues, je dirais non. Pas dans le sens qu'il n'y a pas d'évolution.
Allez, au revoir.
Dans le sens où, pour moi, ça fait déjà 10 ans que je suis dans cette boîte et que ça fait déjà... cette envie,
ouais.
Simplement individuelle, globale, de faire correctement son travail. Ensuite, d'un point de vue plus large, oui, je rejoins ce que disait Ellie, il y a l'accessibilité en ce moment, on en parle beaucoup plus qu'on en parlait il y a encore, je sais pas, 3 ans. Et ça fait plaisir. Tous les aspects, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tous ces aspects donc liés à la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, toutes ces choses-là, c'est des choses où j'ai l'impression que ça a pris maintenant. Et la vie privée aussi, on en parle beaucoup plus, alors pas assez à mon goût, mais on en parle beaucoup plus. Voilà, toutes ces choses-là ont pris ces dernières années. Peut-être que c'est le signe aussi de l'évolution du web de manière générale, etc. Mais voilà, je rejoins Ellie, ça s'est fait ces dernières années sur différents aspects.
D'accord. C'est un signe de son industrialisation, vraiment.
Le mot, l'industrialisation. Oui. Avant la question finale, Ellie, peut-être une annonce à faire. Tu as parlé d'un livre tout à l'heure, nouvelle version sur l'assurance qualité web. Il est disponible dans les bonnes boutiques.
Oui, voilà, c'est
et
un livre qui est édité.
La dédicace aussi.
C'est un livre qui est édité chez...
Comment exactement alors ?
Assurance qualité web. Il a été renommé. Voilà, il est sorti en décembre.
Chez Erol, c'est ça ?
Chez Erol. Voilà. Il s'en est vendu beaucoup, je crois. Enfin, je suis sûr. Et puis, on a également mis à disposition, il y a quelque temps, le premier module de notre formation. Donc, les gens peuvent aller sur le site opquas.com et tester juste le premier module pour découvrir ce sujet, l'assurance qualité web, pour découvrir les contextes utilisateurs, pour découvrir les problèmes utilisateurs. Et c'est vraiment, je crois, à la portée de personnes même qui ne sont pas spécialisées, qui sont juste utilisateurs du web.
D'accord.
Voilà.
Ok. Alors, question finale. Riche échange, beaucoup de choses abordées. En moins de 2 minutes, chacun, chacune, quels sont les éléments clés à retenir de ce sujet? Qui veut commencer? Delphine.
Bon, je peux commencer. Alors, je vais rester sur la partie, sur ma partie, la partie de mon métier. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier qui est très rare encore et qui pourtant est important. Il est important pour l'entreprise, pour sa manière de faire les sites. Il est important aussi pour, et surtout pour l'utilisateur et l'utilisatrice finale. Et puis surtout, c'est un métier qui est très stimulant, puisque comme il est rare et qu'il est inventé, je pense que chaque personne que je vais rencontrer qui va me dire « Ah, mais je suis responsable qualité dans mon entreprise », on va échanger et on ne sera pas deux à faire la même chose, puisque ça va être en fonction de différents contextes. Au fur et à mesure, là aussi, c'est un métier qui va se professionnaliser, enfin pas se professionnaliser, mais peut s'industrialiser, c'est pas le mot, mais voilà, il va y avoir de plus en plus de choses communes. Mais pour l'instant, c'est à défricher. Et je trouve ça très stimulant et très riche. Très riche parce que c'est un métier où on parle avec toutes les personnes qui interviennent sur le site, dans sa boîte. On échange beaucoup. C'est très stimulant, valorisant de les voir, de les voir échanger sur ce sujet-là, dans une optique finalement qui est, j'allais dire, noble. Enfin voilà, qui est la qualité du service qu'on va fournir derrière.
Super. Élie ?
Oui, moi, Delphine a couvert la question du métier d'assurance qualité web. Moi, je vais me positionner presque plus pour les gens qui font des sites, qui participent à des projets de sites, qui rédigent des billets pour les blogs de parents d'élèves ou qui ont envie de se lancer dans le secteur du web. C'est quelque chose, c'est faire un site web, ça a l'air très très simple. En fait, on se rend compte que ça mobilise plein de compétences, plein de choses à savoir, que pour s'occuper de tout ça, bah, y a de la technique, il y a des choses d'ergonomie, il y a de la psychologie, il y a plein de choses à savoir pour faire un site web. Ça peut sembler très intimidant, comme je disais tout à l'heure. Donc, la question, c'est est-ce que c'est pas intéressant de se doter de checklists pour essayer de prévenir des problèmes utilisateurs, c'est-à-dire de tenir compte des utilisateurs avec, dans toute leur diversité et tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc quand vous faites un site, je vous le conseille vraiment, allez récupérer ces règles et essayez de regarder si vous les suivez. Et puis aussi, vous en servir pour vous doter d'un peu de culture web, parce que c'est quelque chose de très intéressant d'avoir une culture web, un vocabulaire web, notamment si vous voulez travailler dans ce secteur c'est un secteur qui embauche beaucoup, c'est un secteur qui est passionnant, on s'éclate dans le web quand même, hein, dans l'ensemble, n'est-ce pas Delphine?
Tout à fait.
Voilà, c'est un chouette secteur.
Eh ben, c'est une belle conclusion, donc merci à vous. Donc Delphine Malassaigne qui est responsable qualité web chez Ekino, Elie Slowin qui est fondateur et président d'OpQuest. Toutes les références citées sont sur le site libreavoue.org dans la page consacrée à l'émission. Je vous souhaite une belle fin de journée.